Voilà, prions Dieu. Quelle merveille, Seigneur, de savoir que lorsque nous te demandons pardon, tu nous pardonnes. Le pardon, c'est comme si les chaînes que nous avions aux mains et aux poignets et aux pieds était brisé. Le pardon fait de chacun de tes enfants des hommes et des femmes libres. Et nous te bénissons pour cette liberté, Seigneur, elle est en toi. Et elle est vraie parce que tu es mort sur la croix. Tu as donné ta vie. Alors merci, Seigneur. Merci pour ce pardon incroyable. Merci pour l'esprit que tu veux nous donner, Seigneur, qui nous permet de comprendre l'Écriture. Et aujourd'hui encore, nous avons besoin de comprendre. Non seulement de comprendre, Seigneur, mais d'intégrer ce que nous comprenons dans nos vies, parce que l'Écriture a été donnée pour que nous puissions la vivre. Et c'est ce que nous te demandons aujourd'hui encore, Seigneur. Et nous te bénissons parce que tu veux exaucer cette prière. Amen.
Amen.
Je vous lirai aujourd'hui, le psaume 139. C'est un psaume magnifique. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. Tu comprends de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une telle science est trop merveilleuse pour moi, trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille demeurer au-delà de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me submergeront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. La nuit s'illumine comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. Je te célèbre, car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait en secret. Tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui étaient fixés avant qu'aucun d'eux existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables et que leur nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille, et je suis encore avec toi. Je passe maintenant au verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Scrute-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Ce matin, j'ai choisi ce psaume comme texte à méditer, car je crois que Dieu veut donner beaucoup de force et d'encouragement à celui qui écoute ses paroles et qui en fait sa prière personnelle. Quel homme ou quelle femme n'a pas besoin de recevoir force et encouragement ? Les circonstances de la vie ne nous conduisent pas souvent sur des chemins tapissés de pétales de rose. Et bien des hommes, qu'ils soient chrétiens ou pas, ne peuvent pas dire que la vie est un long fleuve tranquille. Devant les difficultés de la vie, devant les souffrances de toutes sortes, physiques ou morales, devant les drames que nous vivons personnellement ou ceux que nous voyons vivre aux autres et qui nous affectent, qui n'a pas besoin d'être renouvelé dans ses forces? Qui n'a pas besoin d'encouragement pour continuer à marcher? En effet, que se passe-t-il lorsque les personnes terriblement éprouvées ne reçoivent ni force ni encouragement? Elles mettent souvent fin à leur jour. Pour ne plus avoir à affronter des situations désespérantes et désespérées. Ou bien elles se réfugient dans l'alcool ou la drogue pour tenter de fuir les réalités. Or, nous savons bien que ce n'est pas la solution. La détresse qui conduit à la mort ou à l'addiction vient souvent, pour ne pas dire toujours, du sentiment d'être abandonné, d'être seul au monde, d'être incompris ou de ne pas être aimé. Or, dans ce psaume, l'auteur nous dit que ce que je viens de dire, c'est faux. Il insiste sur le fait que Dieu a veillé sur lui tout au long de sa vie, dans toutes les circonstances. Et la Bible nous fait comprendre que c'est le cas pour chaque être que Dieu a créé. Chaque être que Dieu a créé. Ce que je voudrais d'abord souligner, c'est que l'auteur de ce psaume, qui est le roi David, n'est pas un idéaliste impénitent qui n'aurait connu que la vie fastueuse et insouciante d'une cour royale. Pour vous en convaincre, si ce n'est déjà fait, je vous recommande de lire l'histoire de David à partir du chapitre 16 du premier livre de Samuel. Je ne souhaite à personne une vie mouvementée comme celle qu'a eue celui que Dieu a choisi pour gouverner son peuple 1000 ans avant Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui constitue la force de cet homme qui aurait pu être anéanti par les circonstances dramatiques de sa vie? La prière qu'il adresse à Dieu dans ce psaume nous montre les divers éléments des fondations solides sur lesquelles il a pu recevoir des forces tout au long de sa vie. Un de ces éléments, c'est le fait que Dieu le connaisse depuis sa conception, qu'il ait conscience que Dieu ait tissé la moindre fibre de son corps, qu'il ait la certitude d'être aimé par son Créateur et regardé par lui comme une créature merveilleuse, et que ce Créateur aimant soit l'auteur de ses jours, du premier jusqu'au dernier. Je vous relis les versets 13 à 16 en les commentant. C'est toi, dit le psalmiste, qui as formé mes reins et qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. C'est-à-dire, rien n'échappe à Dieu de la profondeur de notre être. Et ça, depuis notre naissance. Je te célèbre car je suis une créature merveilleuse. La Tobe traduit « Je confesse que je suis une vraie merveille. Tes œuvres sont prodigieuses. Oui, je le reconnais bien. » Les œuvres en question, c'est quoi? C'est ce qui constitue tout ce que nous sommes, c'est-à-dire notre corps, notre âme et notre esprit. À ce sujet, j'ouvre une parenthèse. J'aimerais que Dieu fasse comprendre à ceux qui ne s'aiment pas, et ils sont nombreux dans ce monde, que la phrase de David n'a rien d'une pensée narcissique. Ce n'est pas le regard de David sur lui-même qui lui fait dire qu'il est une créature merveilleuse. C'est le regard que Dieu a sur lui qui lui permet de dire cela. Il ne se loue pas lui-même, il loue Dieu de ce que Dieu veut faire de lui dans son plan. Si vous ne vous aimez pas, frères et sœurs, si l'un de vous ne vous aime pas, ne s'aime pas, pardon, il est essentiel de comprendre que c'est un regard faussé que vous avez sur vous-même. Il existe sans doute de nombreuses causes qui vous ont conduit à cette dépréciation de vous-même. Mais dans tous les cas, Dieu voudrait vous en guérir et vous montrer que vous avez de la valeur à ses yeux. Réfléchissez-y. Et si le Seigneur parle à votre cœur pour ce sujet précis, n'hésitez pas à demander l'aide d'un frère ou d'une sœur pour retrouver une juste vision des choses. Je reviens au texte maintenant. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. La relation entre Dieu et l'homme ne commence pas lorsque l'homme découvre l'existence de Dieu ou accepte Jésus-Christ dans sa vie. Elle commence dès notre conception. J'ai envie de dire qu'avant que naisse l'amour d'une maman pour son enfant dès qu'elle sait qu'elle est enceinte, l'amour de Dieu pèse déjà sur cet enfant. Un amour qui ne se démentira jamais jusqu'à son dernier souffle, quel que soit le chemin que va prendre l'enfant, puis plus tard l'homme. Quand je n'étais qu'une masse informe, dit le psalmiste, tes yeux me voyaient déjà. Le texte hébreu est plus précis, il dit, tes yeux ont vu mon embryon. Avant même l'amour d'une maman, Dieu pose son regard de créateur sur le petit être qui, 9 mois plus tard, va devenir un homme ou une femme. Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui étaient fixés avant qu'aucun d'eux existe. Notre destinée n'est pas le fruit de circonstances ou d'un hasard. Tout ce qui concerne notre vie, notre mort, notre santé, notre maladie, nos joies, nos peines, tout est entre les mains de Dieu. Cette présence de Dieu dès le départ d'une vie, Ésaïe en témoigne aussi dans le premier chapitre de son livre, je vous cite un verset. La parole me fut adressée en ces mots. C'est quoi la parole ? Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète pour les nations. Ne doutons pas que cette révélation de Dieu au début de son ministère a permis à Ésaïe de tenir bon malgré les persécutions nombreuses et terribles qu'il a rencontrées tout au long de sa vie de prophète. Cette révélation, mais c'est à chacun de nous que le Seigneur l'a fait aujourd'hui à travers les paroles de ce psaume. Qu'allons-nous en faire ? Pensez que c'est de la poésie, ne pas en tenir compte? Ou bien est-ce que nous allons accueillir cette révélation avec reconnaissance? Dans le verset suivant, au verset 17, David semble prendre conscience de ce qu'il vient d'écrire et de penser. C'est tellement grand et merveilleux qu'une louange monte dans son cœur. Il s'écrie « Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables et que la somme en est grande. » Et pour avoir une claire conscience des pensées de Dieu sur lui, c'est-à-dire des intentions de Dieu, que Dieu a pour lui, il voudrait les compter, ses pensées de Dieu, mais il ne peut pas. Et il s'écrit, si je voulais les compter, je n'y arriverais pas, parce qu'elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Et il termine ce passage par ces mots, je m'éveille et je suis encore avec toi. Cela ne veut pas dire que ce qui précède, c'est un rêve. Non. Cela traduit l'émerveillement de celui qui a pris conscience que ce Dieu qui connaît tout de lui, ce grand Dieu, ne le lâche pas d'une semelle. C'est le sommet de la confiance. Remarquez qu'il ne dit pas « Tu es encore avec moi ». Il dit « Je suis encore avec toi ». Il parle à la première personne. C'est l'expression d'une confiance absolue en même temps que celle d'une reconnaissance profonde. C'est comme s'il disait « Comment est-ce possible que moi, si petit, si faible, si pécheur, je me sente à ce point en communion avec toi? Comment se fait-il que je me sente si proche de toi ?» Et il connaît la réponse à ce questionnement intérieur qui est rempli de reconnaissance et de joie. Et la réponse est « Je sais bien pourquoi, Seigneur. C'est parce que je mesure à quel point tu m'aimes. » Le second élément de la fondation, c'est que Dieu ne se contente pas d'être présent au départ de chaque vie, mais il accompagne chaque être au cours de sa vie et dans des domaines bien précis. D'abord dans le domaine des actes. Éternel, tu me sondes et tu me connais, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu comprends de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche et tu pénètres toutes mes voies. Frères et sœurs, ne pensez pas que ce que dit David rejoint les intentions de la National Security Agency, la NSA, ou les caméras de surveillance des rues ou des grandes surfaces qui cherchent à accumuler des informations sur les citoyens ou à les surveiller pour les contrôler. Le regard de Dieu sur nos vies n'est pas inquisiteur. C'est le regard d'un père aimant qui veille à ce que son enfant ne se mette pas en danger, ou lorsqu'il est en danger, le prévient. Et c'est la même chose pour nos pensées. Tu comprends de loin ma pensée et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Et enfin, Dieu veille sur nous. Il dit, le psalmiste, tu m'entoures par derrière et par devant. Quelle curieuse image! Le texte hébreu emploie le verbe « enserrer ». C'est ce même sens d'entourer quelqu'un en le tenant fortement. Cette précision par derrière et par devant me fait penser à ces chapeaux forts qui ont un double rempart. Vous en avez vu sans doute. pour être mieux protégé des ennemis. Après avoir dit cela, comme au verset 18, le psalmiste est émerveillé parce qu'il vient de mettre en relief sur l'attention que Dieu porte sur lui. Une telle science, s'écrit-il, est trop merveilleuse pour moi, trop élevée pour que je puisse la comprendre. Cela veut dire, je ne comprends pas comment une telle chose est possible, mais je crois et je suis émerveillé. Pour ce que je vais lire maintenant, je me suis demandé quel était l'état d'esprit qui avait conduit le psalmiste à écrire les versets 7 à 12 que voilà de nouveau. Où irais-je loin de ton esprit? Et où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille demeurer au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me submergeront, la nuit devient lumière autour de moi, même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. La nuit s'illumine comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Écoutons bien ce que dit David ici, c'est important. Même si dans un moment de découragement total, on avait envie de couper les ponts avec Dieu, de fuir à l'autre bout de la planète comme Jonas, de se réfugier dans les paradis artificiels, ou de souhaiter en finir avec la vie tellement on n'en peut plus. Et bien même là, Dieu n'est pas absent. Là aussi, dit David, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Est-ce possible, Seigneur, que tu aies tant de compassion pour ceux qui veulent te fuir, qui ne veulent plus rien avoir à faire avec toi? Oui, dit le psalmiste, c'est possible. Même les ténèbres les plus noires et opaques ne peuvent pas nous soustraire au regard de Dieu. Les ténèbres physiques comme les ténèbres morales, aucune ténèbre ne sont assez sombres pour nous dissimuler au regard de Dieu. Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. La nuit s'illumine comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Je ne sais pas si vous voyez l'importance de cette idée. C'est vraiment une merveille. C'est vraiment une merveille de savoir cela. Après avoir célébré la grandeur et la sollicitude de Dieu pour lui, et sans renier tout ce qu'il vient de dire, le psalmiste semble prendre conscience de sa faiblesse. Un jour, il est peut-être au septième ciel, et le lendemain ou le surlendemain au creux de la vague. Nous connaissons ceci, n'est-ce pas? Alors il adresse cette humble prière à Dieu. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Scrute-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Je rappelle que l'humilité dans la Bible, c'est le désir de dépendre de Dieu dans la plus absolue confiance. Faire cette prière du fond de son cœur, sonde-moi, ô Dieu, c'est avoir le désir d'être transparent aux yeux de Dieu. C'est demander sincèrement à Dieu la chose suivante. Si tu trouves dans mes pensées et dans mon comportement quelque chose qui n'est pas droit à tes yeux, alors Seigneur, montre-le-moi, car je veux t'honorer par une vie conforme à ta volonté. Et soyons sûrs que Dieu répondra à cette prière. Voilà, frères et sœurs, une prière adressée à Dieu il y a 3000 ans. Elles ne figurent pas par hasard dans la Bible. Elle a été transmise de siècle en siècle pour permettre aux croyants de mieux connaître l'amour que Dieu a pour eux. Elle nous a été donnée pour que nous nous approprions ces paroles. En en faisant notre prière personnelle, ça n'est plus la prière de David, c'est notre propre prière. Une prière d'adoration, ou bien une prière de confiance. Lorsque, comme David, nous avons besoin de retrouver des forces et des encouragements face à l'adversité, Dieu l'entendra, c'est sûr, et nous donnera la force et les encouragements dont nous avons besoin. Fais-nous comprendre, Seigneur, que lorsque des paroles sincères s'intègrent dans notre cœur, et lorsque nous te les adressons, tu réponds, Seigneur. Oui, tu réponds. Tu réponds toujours, même si nous ne comprenons pas. Alors, Seigneur, fais-nous comprendre. Fais-nous comprendre à quel point tu es présent en nous, à côté de nous. Fais-nous comprendre à quel point nous pouvons nous appuyer sur toi, Seigneur. Et permets que nous puissions faire de cette prière notre prière personnelle, de cette prière de David, notre prière personnelle. Une prière que tu entendras, parce que tu nous aimes. Et que tu veux redonner à chacun d'entre nous les forces dont il a besoin.